on est là quand même pour atteindre l'éveil. Pourquoi? Parce que le souverain, le souverain de la loi, le souverain de la loi dit que la réalité ultime est dans la présence. D'une part parce que c'est l'instant même où nous sommes vivants, et d'autre part parce que nous ne pouvons pas ne pas avoir de présence. Elle est fugitive, certes, elle naît et elle meurt, certes, mais on n'a que la présence comme étant le vrai. Donc la présence, c'est l'acte physique. Enfin, donc dans cette présence momentanée qu'on a, c'est l'état. La présence, c'est l'état. L'état, c'est établir. L'état, c'est ce qui est la structure provisoire instantanée. Établi. Donc, le Nichiren dit, la voie pour devenir Bouddha ne réside-t-elle pas dans les deux lois de la sagesse et de son objet? Tu sais ça, nous on est là pour atteindre l'éveil. Donc il dit, ainsi, là il parle du Bouddha, ce qu'on appelle objet est la substance des innombrables phénomènes. Et ce qu'on nomme sagesse est l'aspect d'éclairer la substance même de l'infinité phénoménale, et de faire apparaître le principe véritable. Pour le Bouddha, comme la sagesse fusionne avec l'objet qui est la substance de l'infinité phénoménale, de cette fusion de la sagesse et de l'objet, il sort le principe véritable, à savoir l'enseignement de Shakyamuni pendant 50 ans, ou plus profondément, le Honzong, le Daimoku et l'estrade des préceptes dans notre école. Alors que les autres qui ne sont pas éveillés, avec leur sagesse relative, croyant percevoir des objets, eux aussi font apparaître un principe, mais qui n'est pas un principe véritable, qui n'est que le principe de leur état. Le grand gourou verra ça, alors que l'humain verra autre chose en voyant la même chose. Mais de toute façon, toujours, c'est cette relation avec, soi-disant, un objet qui est notre existence, qui est notre état. Et pour le Bouddha, lui qui fusionne avec la substance des phénomènes, ce qu'il sent, c'est la loi. C'est-à-dire le principe véritable. Donc, Nichiren dit, dans le traité sur l'éveil des débutants, c'est traduit Lotus, les débutants c'est nous.
Je sais pas si débutants ou ça d'ailleurs.
Mais quand même, on débute, hein, si on n'arrive pas à grand chose. Pardon? Pas compris.
Non, mais c'est bon, c'est ça. Ouais, non, ça,
l'éveil des débutants, il dit, hein, c'est pour aider l'éveil des débutants. Donc nous sommes les débutants. Donc il dit que lorsque l'on considère en nous le Honzong dans notre poitrine et qu'on récite Nam-myoho-renge-kyo, à ce moment-là, le Bouddha en nous apparaît parce qu'il est nommé. Autrement dit, Namu, le fait de retourner sa vie, et Myoho-renge-kyo, c'est notre sagesse, là, que réciter Namu Myoho-renge-kyo fait que l'objet Myoho-renge-kyo sort de notre corps, apparaît, se cristallise, si vous préférez.
Parce qu'on l'appelle.
Parce qu'on l'appelle. Donc c'est l'acte physique de réciter qui est le fait de faire apparaître l'objet en nous. Plutôt que de se laisser manœuvrer par les pensées qui jaillissent à chaque instant, et qui sont celles de la souffrance, de l'avidité, de la colère, de la joie, de l'orgueil, machin. Donc Nichiren dira, ne recherchez pas ce Honzong ailleurs, il est seulement présent dans la chair de notre poitrine, nous les êtres qui récitons le Sutra du Lotus et récitons Nam-myoho-renge-kyo. Évidemment, ce n'est que par ce biais de la récitation physique que l'éveil apparaît, et non pas le travail de l'esprit. Comme disait Shakyamuni, hein, évitez de vous laisser envahir par l'esprit. Parce que c'est le passé du corps et le corps est le passé de la réalité. Donc pas de travail de l'esprit, ça sert à rien.
Tu peux répéter? Parce que c'est joli.
Le corps est le passé de notre réalité et l'esprit est le passé du passé. Donc il n'y a pas d'issue. Avec l'esprit, on ne peut pas. Par contre, l'acte physique, oui. L'acte physique est le seul réel présent.
T'inscris des choses, en fait.
Oui, puis c'est le seul présent. L'esprit n'a pas affaire au présent. Il vient après. L'esprit ne peut jamais intervenir sur le présent. Il constate. Donc Nichiren dit, après le souverain de la loi dit, que Myōrōlin Gekkyō, en tant qu'objet, c'est-à-dire la substance de l'infinité phénoménale, Myōrōlin Gekkyō en tant qu'objet et Nam Myōrōlin Gekkyō en tant que sagesse sont deux, tout en étant non-dualité. On dit, lorsque nous récitons Nam Myōrōlin Gekkyō, nous faisons apparaître la sagesse grâce à Nam, qui nomme l'objet Myōrōlin Gekkyō. Ainsi, même si on est abruti, et qu'on est loin de l'éveil, et qu'on ne sait même pas quelle couleur ça peut avoir, hein, le fait de réciter Nam Myōrōlin Gekkyō est la fusion de l'objet dans le sujet. Donc ça, c'est ce qu'il peut faire. C'est le seul moment où notre vie est, notre vie fonctionne comme celle du Bouddha. On agit comme lui, sans en avoir la vertu, les vertus. C'est clair?
Oui.
Donc, je demande, parce qu'on ne sait jamais.
Et si un, si un moment tu se regardes, c'est cette que le time pendant 5 jours, est-ce que ça c'est quelque chose?
Autant que tu veux un gros état.
D'après les textes, non. D'après les textes, non. Parce que, je comprenais,
parce que c'est un œil coué au nez, enfin, je veux dire,
en plus, son gros n'est pas bon.
Oui.
Pourquoi, à la fin de sa vie, Nichiren Daishonin a laissé la troisième grande loi ésotérique? La première, il l'a énoncée en 1253, Nam Myōrōlin Gekkyō. La seconde grande loi ésotérique, il l'a inscrite lorsqu'il était à Sado et un peu avant, à travers le 11 ans. Donc l'objet visuel, l'objet vocal. Pourquoi il a laissé la troisième grande loi ésotérique seulement à la fin, l'estrade des préceptes? Parce que l'estrade des préceptes, c'est la perpétuation de son esprit dans un corps différent.
C'est la transmission.
Voilà.
On appelle la transmission.
Donc quiconque est coupé de l'esprit du Bouddha originel dans la personne successive, fait autre chose.
Mmh.
Il fait autre chose. Et il laisse en lui, c'est-à-dire qu'il ne peut pas suivre les informations du grand patriarche, il ne peut pas maîtriser son esprit. Donc son esprit est toujours en balade, même s'il récite Daimoku, il ne peut pas suivre les orientations du souverain de la loi. Donc il n'y a pas de guide à son esprit. Donc pas d'éveil.
La seule chose, c'est le rappel à cette question, cette morceau, c'est qu'à ce moment-là, ça peut être encore pire.
Voilà, celui-là, il médit carrément, il médit de la bienveillance du Bouddha originel, ce qui est quand même assez grave.
Autant suivre un pétard, c'est mieux.
Bah ça, j'ai fait le choix il y a longtemps. Bon, donc, dans la prière silencieuse. Il calme son esprit, bordel. Donc, en général, je suis pas un garçon autoritaire, mais là, c'est un Donc, dans la prière silencieuse consacrée aux 11 ans, il est dit, je prends refuge, non, c'est Namu, je prends refuge dans le Daigo 11 ans du Kaidan, de la seule doctrine originelle, cœur du chapitre, durée de la vie de la doctrine originelle, grande loi enfouie dans le profond des phrases, mystérieuse terre originelle, union parfaite de la sagesse et de son objet. Donc, le souverain de la loi dit que la sagesse et l'objet sont en union parfaite, ne formant qu'un corps. L'objet représente la substance véritable de la loi. La sagesse est la sagesse du Bouddha éclairant réellement la loi. L'objet et la sagesse fusionnent parfaitement. La forme concrète de cette union en un corps se manifeste par le biais de la pratique. Donc ce n'est que la pratique matin et soir qui réalise la fusion de la sagesse du Bouddha et de l'objet, l'infinité phénoménale, sa substance. Ce n'est que dans ces moments où nous récitons que notre vie est à son niveau le plus élevé. Donc plutôt que penser pendant une heure ou deux ou trois à des conneries sans fini-tête qui en plus n'aboutiront à rien, mieux vaut faire Daimoku en essayant de ne pas se laisser envahir par les pensées à la con et essayer de s'éveiller au fait que notre vie a toujours été un effet. Ça, c'est mieux. Nichiren dira dans une réponse à Matsuno, vous, laïcs, pratiquez nuit et jour. Plutôt que d'avoir l'esprit envahi par des clergés nuit et jour, réciter d'un mot, même intérieurement, même au chiot, si vous n'avez pas le moyen de faire autrement. Elle rigole. Elle rigole. Même dans les chiottes, faites Daimoku, mais surtout ne laissez pas votre esprit vous envahir.
Ah oui.
S'il n'y a pas d'issue.
Non.
Il vous a toujours envahi pour rien.
Et moi, je me disais, une question parce que,
Il fait la porte, j'ai un cours à faire, moi.
Bon, alors, je le dirai après.
Ouais, d'accord, tu n'as pas Donc, le grand maître Dengyo, au Japon, dit que, la une pensée 3000, donc, ça qualifie la pensée du Bouddha. Enfin, évidemment, je sais bien que tout ce qui est une pensée. C'est-à-dire que tout ce qui est apparaît en tant que forme pensée momentanée, c'est vrai. Mais là, une pensée 3000, c'est le Bouddha qui est désigné. Donc, il dit, une pensée 3000 est identique au corps qui de lui-même reçoit et emploie. Le corps qui de lui-même reçoit et emploie est le Bouddha sans forme respectable. On dit, pour tout ce qui est, le fait d'être, c'est utiliser tout ce qui est. Parce que le fait d'une apparition momentanée, c'est une réalité qui s'appuie sur l'ensemble de la réalité, sans commencement ni fin, et infini. Donc le fait d'être à chaque instant, c'est utiliser. Mais c'est utiliser sans en avoir conscience. Alors que pour ce qui est du Bouddha, il utilise librement l'infinité phénoménale, et c'est ça la qualité de sa une pensée momentanée. C'est pour cela que le Gongyo que l'on récite provient de l'utilisation par le Bouddha des caractères et des mots qu'il utilise librement pour faire apparaître son état. Rappelez-vous, Ziyi disait la récitation du texte du sutra est la respiration du corps de la loi. Quand nous récitons le Gongyo, le corps de la loi apparaît. Grâce à la vertu du Bouddha qui utilise librement l'infinité phénoménale et qui fait qu'il compose le giga de Kubulai, comme étant son propre corps. Parce qu'il a la vertu de pouvoir utiliser tout ce qu'il est et qu'il voit, les choses telles que ça. Mais quand Dengyo dit que le corps qui de lui-même reçoit et emploie est le Bouddha sans forme respectable, ça signifie que c'est l'humain ordinaire. Qui n'a pas la forme respectable? Shakyamuni est apparu en Inde avec 32 signes caractéristiques du Bouddha et 80 signes moins importants. Donc Shakyamuni montrait à travers son corps qu'il avait obtenu l'éveil, dans ses voyages physiquement, après moult efforts de par le passé. Dans notre logique, au contraire, le Bouddha est sans forme respectable. Pourquoi? Parce que c'est le simple mortel, tel qu'il est, engoncé dans ses troubles et ses angoisses, qui fait apparaître le Bouddha dans son propre corps.
Pour la période de repos.
Voilà. Dans l'enseignement du Bouddha originel. Bien sûr. Donc, on trouve la chose suivante dans le traité sur l'accès à l'éveil des végétaux. Nichiren dit que pour nous, les êtres, la fleur de lotus, non sensitive, constitue un appui, un recours. La fleur de lotus, c'est la simultanéité de la cause et de l'effet. Donc, comme tout est cause-effet simultané, pour nous les êtres, cette conditionnalité phénoménale à chaque instant, donc le corps et l'environnement, n'est-ce pas, est notre support. Rappelez-vous cette phrase qui disait que le karma des êtres apparaît dans l'espace. Pourquoi? Parce que dans l'espace, il y a sur l'espace, il y a le vent. Sur le vent, il y a l'air. Il y a l'eau. Sur l'eau, il y a la terre. Et c'est ainsi que naissent les causes et les effets des causes des êtres dans l'espace. Eh bien, identiquement, là, c'est la fleur de lotus, donc à cause des effets simultanés, qui est notre appui, notre soutien. Et Nichiren dit, lorsque nous sommes vivants et donc que nous pratiquons, nous faisons entendre notre voix et des sons. Alors, la loi merveilleuse est le sensitif. C'est-à-dire que lorsque nous vivons, lorsque nous récitons Namuro Rengekyo, comme nous le récitons en tant que vivant, à ce moment-là, on fait passer la loi de la non-existence à l'existence. Si le myolingyo n'est pas utilisé, la loi n'est que virtuelle. Elle n'est pas manifestée. Si on récite, il y a manifestation physique, il y a voix, il y a un corps phonétique qui apparaît. À ce moment-là, la loi merveilleuse devient le sensitif. Donc nous sommes dans la situation, nous, où malgré nos troubles et nos angoisses, nous pouvons rendre manifeste le corps de la loi physiquement dans le monde réel. Donc, Nikken dit, alors c'est la loi merveilleuse qui régit les êtres sensitifs. C'est-à-dire que c'est le principe du Bouddha en tant que corps de communication au sein des trois corps. Ça veut dire que lorsque nous récitons Daimoku, le Bouddha apparaît en tant que corps de communication, c'est-à-dire en tant que corps physique. C'est ça notre rôle. Nous faisons apparaître le corps de communication du Bouddha en pratiquant. Souvenez-vous, on avait dit que le Bodhisattva possède deux corps. Un corps qui est conféré par les parents, qui est un corps de chair, et le corps de la loi. Donc le Bodhisattva possède ces deux corps. Le corps de chair, il est là. Les parents l'ont fabriqué, l'ont façonné, tu es né à un moment, donc le corps de chair, ben, il est là avec le super. Mais en même temps, Bodhisattva, il a le corps de la loi. C'est-à-dire que le fait de pratiquer fait apparaître en lui le corps de la loi, le corps de communication du Bouddha. Bien, nous faisons pareil. En outre, si nous continuons à pratiquer, c'est parce que, quelque part, il y a comme une petite forme de sagesse qui apparaît, quelque part. Bon. La sagesse, c'est le corps de rétribution du Bouddha. Hein? Donc, continuons à pratiquer avec notre petite sagesse. On est dans la situation où, d'un côté, on cherche l'éveil, c'est-à-dire qu'on tend vers la fusion avec le corps de la loi, et en même temps, lorsque l'on pratique, nous avons un corps de communication avec les êtres, c'est-à-dire que nous tendons, nous, vers la loi, et en même temps, nous expliquons aux êtres qui comprennent moins que nous. Donc, cet aspect de la sagesse, corps de rétribution, qui est tendu vers le corps de la loi pour s'éveiller, et qui, en même temps, vers le bas, aide les êtres, c'est notre fonction. Juste parce qu'on pratique. Que nous faisons apparaître le corps de communication, donc le corps physique du Bouddha dans le monde. C'est ça notre réalité. Nous faisons apparaître le corps du Bouddha dans le monde. Si on ne voit pas au début, c'est parce qu'on a des sens qui fonctionnent que pour l'humain. Pourtant, au fur et à mesure de notre pratique, d'autres sens naissent et les objets en relation avec ces sens naissent également, en même temps. C'est qu'il y a une capacité, disons, perceptive globalement, qui naît en nous à force de produire le corps de communication du Bouddha, et cette capacité perceptive qui naît ni la vue, ni lui, ni ceci, ni cela, en même temps elle perçoit des objets qui jusque-là, ni le sens, ni l'objet n'existent. Ça, c'est ce que nous faisons, nous. Donc, même si au début, on ne voit rien, il ne faut surtout pas lâcher en disant « je vois que dalle ». Et donc, le Nikken Shonin dit « ici réside l'enseignement ultime concernant l'essence de la vie. Il s'agit non seulement de la théorie selon laquelle les hommes ordinaires plongés dans l'affliction possèdent la nature du Bouddha, mais surtout de la doctrine inouïe selon laquelle il présente en tant que Bouddha factuel les vertus effectives de celui-ci. » Donc on passe du principe à la réalité. En pratiquant matin et soir, on fait apparaître le corps de communication du Bouddha, alors que nous sommes complètement abrutis et que nous ne comprenons rien. Donc il dit, ils sont en tant que Bouddha factuel. Factuel, ça veut dire attesté, observable, réel. Donc, grâce au fait de remonter la loi et de la pratiquer, nous passons d'un état où la vie est subie, où il n'y a pas d'être vivant, à un état où nous faisons apparaître dans le monde les vertus effectives du corps de communication du Bouddha. Et il rajoute, ceci est rendu possible par le fait que, nécessairement, au point le plus central du monde des phénomènes, il y a l'essence du bouddhisme, de l'identité de la personne et de la loi. Ça veut dire quoi ? Identité de la personne et de la loi et de la personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de loi avant les phénomènes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de phénomène avant la loi. Ça veut dire que les phénomènes sont la loi, que la loi est les phénomènes, et que rien n'est d'origine. Pardon?
Dans ce cas, si c'est le golem seul.
Non, je veux dire, notre vie n'a pas d'origine. Notre vie n'a pas d'origine. Il n'y a pas de loi avant les phénomènes, ni de phénomènes avant la loi. C'est un seulement. Nous ne pouvons ni apparaître, ni disparaître. Voilà. Et la présence est permanente. Qui plus est. Donc, le souverain de la loi dit... Chiotin.
Tu peux pas expliquer ça tout le monde sans trop l'enfermer.
Ah, mais j'évite d'en parler. Sinon on m'enferme. Le sac est restreint. Mais quand même, j'ai un auditoire. Ce qui pourrait ne pas être.
Fidèle.
Si il le faut, je parlerai tout seul. Donc, Nikendi Namyoholengekyo est le corps de la loi inconcevable dépassant les notions de temps et d'espace où la personne et la loi sont uniques. Qui plus est, dans cette histoire, le Myoholengekyo, dans sa forme phonétique, est le même pour le Bouddha ou pour nous. C'est-à-dire qu'il récite la même chose que nous. Donc le souverain de la loi dit qu'il n'existe pas la moindre différence entre le Daimoku que récite le Bouddha originel et celui que nous récitons. Ce fait est particulièrement digne de louange. Pourquoi ? Parce que, bien qu'abruté complètement, nous pouvons avoir la même action concrète que le Bouddha originel. Ça, c'est inconcevable. Le Bouddha originel, de par son état, son action est Myoholengekyo. Nous qui avons un état pitoyable, notre action est aussi Myoholengekyo. Ça, c'est génial. Le fait d'agir comme le Bouddha originel fait apparaître en nous la substance de l'éveil.
Oui, mais pour ça, il faut prendre conscience.
Non, c'est bon, on pratique, on étudie la loi et ça marche.
Oui,
ça
va. Tout le monde qui veut pratiquer.
Mais on est là pour ça. Il est dit aussi que... Le souverain de la loi dit que pratiquer, c'est propager.
Oui.
Pratiquer, c'est entraîner.
C'est pour ça que vous avez bien vite soit éveillé.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et pratiquer, c'est entraîner, même si on a du mal à parler du bouddhisme rouge.
Ah oui, tu entraînes forcément.
C'est ça.
Mais même si tu fais que écouter, tu entraînes.
C'est ça. Donc Nichiren dit, l'esprit de l'enseignement que propose le sage se retrouve dans la pratique. C'est-à-dire, en somme, le fait de pratiquer, l'esprit de l'enseignement du Bouddha nous inonde au fur et à mesure. C'est pas deux, c'est un. Et Nichiren dira encore, à présent, les fidèles de Nichiren qui récitent Nam-myoho-renge-kyo doivent savoir qu'ils ne sont pas différents de Nichiren. Pourquoi? Parce qu'on peut apparaître son corps. Et au fur et à mesure, faisant apparaître son corps concrètement, physiquement, jour après jour, eh bien, les choses bougent doucement. Vous en avez marre, vous voulez qu'on l'arrête? Ah, ça va être plus facile maintenant. Le dur vient de passer. Quoi qu'il y a un petit dur à la fin, mais c'est pour nous effrayer. Donc, c'est Obayashi qui dit que même dans les moments de souffrance, t'as 30 jours pour moi pour penser tout seul, donc ça va, bordel. Donc, Obayashi dit que même dans la souffrance de la maladie ou l'approche de la mort, même sans guérir de la maladie et même en ayant à faire face à la mort, si l'on pratique, les souffrances de l'enfer s'effacent. La maladie est vaincue et les trois actes physiques, verbal et mental s'harmonisent immanquablement. Quand bien même la souffrance de la maladie est là, quand bien même la mort approche, si l'on reste Daimoku, la souffrance est vaincue. Il dit à ce moment-là, les quatre souffrances de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort de cette vie se transforment en quatre vertus de permanence, félicité, soi et pureté. Donc même pour les gens qui ne pratiquent pas, nous pouvons nous réciter Daimoku dans leurs oreilles, pour que eux-mêmes vivent ça, et que leur vie se transforme. Aussi, un maître japonais, Zen, Dogen, un jour, Non, il est complètement con, mais disons que, somme toute, il a quand même vu des choses.
Oui, c'est vrai.
Si bon, il a quand même pratiqué la loi assez longtemps. Voilà, donc Dogen. Quelqu'un lui dit, c'est un vieil homme malade, qui dit à Dogen, je suis malade, je ne suis pas doué, et je ne supporte pas l'étude de la voix. Donc, voilà. Alors Dogen lui dit...
C'est vraiment affiché.
Dogen lui dit, les saints qui nous ont précédés n'avaient certainement pas une charpente de fer. Et les anciens, étaient-ils tous des hommes doués? Si l'on ne pratique pas l'étude de la voix pendant cette vie, dans quelle vie future serons-nous doués des capacités voulues et serons-nous suffisamment exempts de maladies pour étudier la voix? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et s'il y dit... Ah, je suis à la tête, c'est pas pire. C'est quand même de l'autre côté, tout ça, hein, si je m'emmerde. Voilà, Zilly dit, le bien que l'on émiette distraitement agit faiblement, il ne peut rien changer. Par contre, la pratique de la cessation des troubles et de l'introspection des 10 mondes en soi, effectuée bien portant ou malade, fait mouvoir la roue de la vie et de la mort. Donc pas d'action de bien qui ne servent à rien. Le bien émietté distraitement, dit Zilly, ça n'a pas d'efficace. Par contre, bien portant ou malade, observer en soi les 10 mondes, comme des Shakyamunis, regarder en soi, ça fait mouvoir la roue de la vie et de la mort. Ça, c'est sérieux.
Donc, c'est...
Ah, bah, il n'y a que ça. Vous en avez marre ou vous voulez qu'on arrête? Ah, attendez, parce que celle-là est belle quand même. Donc, il est dit. Bah, il me reste 10 minutes, là, c'est bon? Vous allez venir? T'as pété un fusible?
Non.
Bon. Nichiren dit, en récitant avec respect Nam-myoho-renge-kyo dans la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort, nous soufflons le parfum des 4 vertus. Namu est la perfection de la félicité. Et quand vous récitez Namu Myoho-renge-kyo, c'est l'endroit où votre vie exprime le corps du Bouddha. Donc c'est ça la félicité. Myoho est la paramita, enfin, la perfection du soi. Renge est la perfection de la pureté. Kyo est la perfection de la permanence. Donc quand nous récitons Namu Myoho-renge-kyo, nous pouvons nous ouvrir, nous éveiller à la félicité, au soi, à la pureté et à la permanence. Il est dit aussi, toujours à propos, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Toujours à propos de ces 4 vertus. Dans le Sœur du Lotus, au 11e chapitre, apparaît le stupa précieux, qu'on appelait avant la tour au trésor. Donc il est dit, des 4 côtés du stupa, émanent des parfums de Tamara et de Santal qui emplissent le monde. Nichiren dit à ce propos que les 4 côtés du stupa précieux sont la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Ces 4 aspects ornent notre stupa personnel, notre corps. Lorsque nous récitons Nam-myoho-renge-kyo à la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort, nous exhalons le parfum des 4 vertus. C'est ce que nous faisons. Nous ornons notre stupa personnel du parfum des vertus en pratiquant. Et enfin, je vais quand même vous laisser, et là c'est chouette que c'est Brigitte qui va le lire, prenez ça, sans cette phrase que j'ai entendue, c'est jointif, tu verras.
Devenir Bouddha n'est pas quelque chose de particulier. Vous récitez seulement la vie de Dieu. Vous doterez naturellement des premiers de style et des 80 marques de style. Vous deviendrez Bouddha facilement comme chacun de vous le dit, comme moi, sans différence. Par exemple, au début, l'œuf d'un oiseau et du tigre. Sans que personne n'en revienne, voilà d'apparaître un bec, voilà des yeux, et enfin, vous s'envoler dans le ciel. Nous-mêmes sommes des œufs plongés dans l'obscurité et doutés de corps humains. Cependant, guidés par notre mère, la récitation de Nam-myoho-renge-kyo,
le texte est 32 signes capables d'écrire les 80 marques du premier plus, nous permettant alors de voler dans le ciel de la cité véritable pratique. À ce sujet, le sutra est luxe. L'ensemble des êtres demeure dans l'œuvre de l'obscurité, et est humilié du texte de la sagesse. Les baisers brisent en les frappant l'œuf de l'obscurité, permettant ainsi à tous les êtres de quitter les limites et de s'envoler dans le ciel de la cité de la nature éternelle.
Et donc, pour terminer vraiment ce groupe, Nietzsche dit, un après ceci n'est pas un à cause de ceci. Et c'est vrai. Un après ceci n'est pas un à cause de ceci. Autrement dit, les phénomènes ne peuvent pas être des causes. Autrement dit, lorsqu'on dit que notre vie instantanée emplit le monde des phénomènes, c'est ce que dit Nietzsche, ça signifie que la causalité n'est pas dans le temps, mais dans l'espace. Donc, un après ceci n'est pas un à cause de ceci. La causalité n'est pas dans le temps, mais elle est dans l'espace. C'est l'infinité phénoménale, dans son instantanéité, qui est la causalité. Et non pas dans le temps. Nous ne sommes pas dans le temps. Rien n'est dans le temps. Donc il n'y a jamais un ceci à cause de cela. C'est faux. Jamais, jamais, jamais. Ça concerne notre propre vie. D'accord? Mesdames et messieurs, merci.